Et on poursuit avec un deuxième sujet, on va aller du côté de Rennes 1, ou plutôt vers l'université de Rennes. C'est avec toi, Valentin.
Et oui, on va parler de l'un des événements universitaires de la rentrée. Depuis le 1er janvier 2023, 6 établissements rennais se sont regroupés pour former l'établissement public expérimental de la future grande université de Rennes. Alors ces six établissements sont l'université de Rennes 1, l'école des hautes études en santé publique, l'école nationale supérieure de chimie, l'école normale supérieure de Rennes, l'Institut national des sciences appliquées et Sciences Po Rennes. Cela représente au global environ 37 200 étudiants et 4 500 personnels. Alors pour parler de cette unification tant attendue, nous recevons en studio David Alice, président de l'université de Rennes 1. David Alice, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors merci d'être avec nous en studio pour parler de cela. Alors ce regroupement, il arrive après une dizaine d'années de travail. Qu'est-ce qui a motivé à la base ce projet de réunion de six établissements d'enseignement supérieur rennais?
Comme vous l'avez dit, c'est un projet qui vient de loin, puisque dans l'histoire des universités, nous avons eu les premières vraies universités au 19e siècle, et puis les grandes écoles qui préparaient à des métiers, les mines, les ponts, et enfin des organismes nationaux de recherche, le CNRS, l'INRIA. Et le projet qui a émergé il y a une dizaine d'années, c'était aussi de faire des grandes universités qui rapprochent universités, grandes écoles, organismes nationaux. Et donc, nous avons travaillé depuis 2014, ensemble, pour finalement forger ce nouvel établissement, Université de Rennes, qui fédère donc ces 5 grandes écoles qui ont accepté de se regrouper avec l'Université de Rennes 1 pour donner naissance à l'Université de Rennes, et avec aussi des établissements associés, l'Université Rennes 2 qui participe à cette dynamique, ou l'Institut Agro. Et ensemble, nous pensons mieux relever les défis de demain, les défis du climat, de l'environnement, les défis de la santé globale, santé de l'environnement, santé humaine, toute l'urgence climatique. Et puis tous les enjeux du numérique, de la ville intelligente, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on parle d'université de l'innovation, université des transitions. Voilà, ce n'est plus les modèles classiques de université, grandes écoles, organismes. Ensemble, nous dépassons les frontières et on le fait aussi pour les étudiants, pour la société.
Et justement, quelles sont les opportunités absentes par le passé qu'ouvre ce regroupement entre les grandes écoles et cette université ?
En fait, l'enseignement supérieur a été traversé par un nouveau modèle qui est des modèles d'appel à projet. Et ce n'est plus une université ou une école ou un organisme qui répond, c'est un ensemble. Et nous devions nous organiser, comme ça s'est fait sur différents sites en France. On pense à Saclay, qui est devenu le 15e établissement mondial qui rayonne au niveau international. Mais on peut penser à Nice, à Lille, à Grenoble, Montpellier. Il y a ce mouvement qui était en marche. Et ça nous permet, par exemple, nous avons obtenu ensemble 21 millions d'euros pour devenir université pilote de la transition écologique environnementale, pour qu'on fasse de la science participative, de la science citoyenne, qu'on transforme notre offre de formation. Vous savez, on parlait beaucoup d'ingénierie high-tech. Nous, on veut aussi faire du low-tech parce qu'on pense qu'il faut préserver les ressources. Et puis, vous avez cité l'école de santé publique. On pense que la santé publique, les défis de la santé, notre université, elle est liée à ces enjeux-là. Et donc, nous le faisons ensemble. Et donc, on transforme l'offre de formation ensemble et on relève ensemble les grands défis. Et on a été lauréat de plusieurs appels. Je pense notamment à tout un appel sur aussi la science avec et pour la société.
Et en quoi ce regroupement, il permet aux universités de Rennes de s'offrir davantage à l'international? Vous venez de l'évoquer. Vous l'avez également évoqué dans une interview à Ouest France. Vous avez parlé de passeport international. Est-ce que ce n'était pas déjà le cas? Et en quoi ce regroupement-là va pouvoir permettre encore plus à Rennes de briller, entre guillemets, à l'international?
Eh bien, nous étions en fait à Montréal et à la ville de Québec avec la métropole en novembre. J'ai bien vu en fait la lumière qui se fait dont les yeux de nos interlocuteurs, parce qu'on y était avec plusieurs grandes écoles, les mêmes dont on a parlé, l'Université de Rennes 1, l'Université de Rennes 2. Et vous voyez qu'ils voient une dizaine d'interlocuteurs, chacun avec sa spécificité, mais ils ne voient pas le projet global. Et lorsqu'on leur a dit, on crée ensemble l'Université de Rennes avec ses grandes écoles, et nous avons aussi l'Université Rennes 2 qui porte les arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, qui est associée avec nous, eh bien, d'emblée, ils comprennent. Ils ont envie de travailler avec nous. Et l'accord, il est d'emblée global. Et demain, vous savez que je suis très attaché à l'enseignement des langues étrangères, des cultures. Eh bien, plutôt que d'y aller chacun séparément, on voit bien l'importance, un peu comme ici, cette radio, c'est une radio pour l'ensemble des établissements. Eh bien, on souhaite avoir des infrastructures pour l'international. Et l'Université de Rennes, pour nous, c'est notre carte d'identité, et c'est notre passeport. Et donc demain, nous irons au Japon, nous retournerons aussi au Canada. Nous avons un très beau projet aussi sur l'Irlande avec tous les établissements. Et ça correspond à une attente. C'est une nouvelle façon de nous présenter qui permet de dépasser les silos un peu historiques, université, grandes écoles, organismes.
Et donc ce regroupement-là, en quoi concrètement il peut développer l'attractivité de ces différents établissements, que ce soit pour des projets internationaux ou même des étudiants français, voire rennais, en quoi il y a une attractivité supplémentaire avec ce regroupement ?
Eh bien, nous voulions ensemble faire de cette université de Rennes l'université de l'environnement et du développement durable. On a la chance d'avoir Jean Jouzel, vous savez, qui a porté les rapports du GIEC, qui a apporté un rapport à la ministre, et d'emblée que tous les étudiants, ils connaissent les objectifs du développement durable, ils aient des formations, et qu'ensuite, ils puissent être accompagnés. Par exemple, nous, on va faire du droit de l'environnement, droit du numérique, droit de la santé, mais ça s'applique à toutes les sciences humaines et sociales, ça s'applique aux sciences. Et nous voudrions que la Bretagne, qui est une terre des transitions, qui est confrontée à ce défi de l'écologie, de l'économie, de l'agriculture, eh bien nous, on veut contribuer par l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, à relever ces défis. C'est un peu ce que nous avions fait pendant la crise sanitaire, avec le HESP et des ambassadeurs pour la crise Covid. Et demain, pour le numérique, pour la cybersécurité ou pour l'intelligence artificielle, nous relevons les défis ensemble. Voilà. Donc demain, la place de Rennes et plus globalement aussi de la Bretagne, si nous répondons ensemble sur... on parle ici de radio, on peut parler d'industrie culturelle et créative, de jeux vidéo. Eh bien, nous pensons que c'est ensemble que nous relèverons ce défi. Ce n'est pas isolément, mais c'est ensemble, y compris avec des partenaires socio-économiques, culturels, les collectivités. Et cette dynamique, elle fonctionne déjà, puisque pour le développement durable, la transition écologique, on a obtenu 21 millions d'euros. Là, on répond à des projets compétences et métiers d'avenir. On vient d'en avoir en intelligence artificielle. On veut à chaque fois regrouper les établissements et faire que tous les étudiants en bénéficient.
Et justement, donc, le regroupement de ces établissements, en quoi concrètement, comment les structures elles seront mises en commun et quels liens seront directement tissés entre les différents établissements qui vont former donc cette grande université de Rennes? Parce qu'on rappelle que les structures budgétaires, elles restent indépendantes. Et les établissements, ils gardent aussi leur responsabilité morale avec leurs propres instances. Du coup, comment ça va être quoi les premiers liens vraiment tissés entre les établissements?
En fait, ce qui nous manquait, c'est une stratégie commune. Quand on parle de santé, nous sommes avec le CHU, avec l'INSERM, avec l'université, avec le HESP en santé publique. Et ensemble, nous avons décidé de travailler, par exemple, sur la santé globale, le One Health, la santé unique, et de mettre toutes nos forces ensemble. Et c'est ça qui révolutionne la recherche, qui révolutionne la formation. On a déjà une mention commune, une mention de santé publique, à laquelle est associée aussi l'Université Rennes 2. Eh bien, c'est d'avoir plus de moyens pour donner envie aux étudiants de s'inscrire dans cette politique et de personnaliser les parcours. Vous avez déjà aussi des parcours innovants entre INSA et Sciences Po, historiquement entre Rennes 1, Rennes 2, ou entre Rennes 1 INSA, ou entre Rennes 2 ENS. On a déjà des belles réussites, je pense à tout ce qui est sport et numérique, aussi ce qu'on fait en culture, ce que fait en cyber. Mais là, on change de dimension. Et je pense que tous les étudiants vont le voir dans ces parcours pluridisciplinaires. Parce que l'un des enjeux, nous aurons réussi si c'est une fierté commune. Et s'il y a une politique coordonnées, réussies, où nous gagnons ensemble. Et je le vois, par exemple, vous savez, sur les sweatshirts. Bah, demain, on aura peut-être École normale supérieure, Université de Rennes, Sciences Po, Université de Rennes. Vous voyez, c'est une... C'est pour ça que je parle de carte d'identité et de passeport pour l'international. Et puis, on est en ce moment de vœux, hein, c'est la nouvelle année. Et puis, c'est un moment de fierté, c'est un moment d'aboutissement. Et je crois que c'était attendu pour nos étudiants, pour nos personnels, et que c'est un gage de succès pour l'avenir.
Et donc, cet établissement public expérimental, elle est éligible à une aide de 95 millions d'euros de subventions de la part de l'État dans le cadre du programme Investissement d'avenir. Et elle ouvrira évidemment plus de possibilités, vous venez de le dire, comme les 21 millions pour la transition. Donc elle ouvrira plus de possibilités pour recevoir des financements à l'avenir. Est-ce que c'était aussi la recherche de financement et le fait d'avoir plus d'argent pour certains projets qui a motivé ce projet de Réunion? Est-ce que c'était aussi à la base...
Plus de moyens pour le site rennais, pour la Bretagne. Oui, il y a eu toute une vague d'appels à projets qui étaient réservés à des sites très structurés, voire fusionnés, en fait. Et ça a été toute la décennie, finalement, 2010 jusqu'à 2020. Et nous, vous savez qu'on a une grande richesse en Bretagne. Je dis, des fois, on est aussi le pays d'Astérix, on a tous notre stratégie. Mais là, il fallait qu'on gagne ensemble. Vous savez, il y a un proverbe africain qu'on aime bien citer en Bretagne, c'est « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et il nous fallait trouver une façon d'être éligible à ces grands financements. Après, sur les montants, 95 millions, c'était l'objectif. Vous voyez, on est plutôt sur 22, plus, mais c'est sur chacun des projets. Et au total, oui, je pense qu'on sera sur ces montants-là. Et avant, on nous opposait finalement l'absence de structuration, universités, grandes écoles, organismes. Et là, nous avons trouvé notre chemin. Et je voudrais rendre hommage aussi à tous les collègues qui se sont mobilisés. On s'est réunis tous les mercredis pendant plusieurs années avec Olivier David, puis ensuite avec Christine, mais avec les 5 chefs d'établissement et avec toutes les communautés. Et ensemble, on a trouvé. Et donc oui, ça nous rend éligibles à ces grands financements. Nous en avons besoin. On a aussi besoin que dans les classements internationaux, il n'y ait pas l'INSA d'un côté, l'Université de Rennes de l'autre, le CNRS en troisième, le NS en quatrième. Non, l'Université de Rennes, ça devient notre carte d'identité. Et ça a un effet mécanique et c'est pour ça que pour l'international, c'était aussi très important.
Et donc il y a dans ce projet 3 établissements qui auront le statut d'associé. Vous l'avez déjà évoqué, donc l'École nationale de statistique et analyse de l'information de Rennes, l'Institut Agro Rennes-Angers et donc l'Université de Rennes 2. Jean-Émile Gombert, qui est l'ancien président de Rennes 2 de 2011 à 2015, a déclaré en octobre dernier, plutôt amèrement, je cite, qu'il n'y aurait pas de sitôt une grande université de recherche et de formation reconnue internationalement à Rennes suite au refus de Rennes 2 et donc que ce projet serait une coquille vide. Est-ce que c'est vraiment un échec de ne pas avoir l'université Rennes 2 se joindre au groupement? C'est une université, je rappelle, qui rassemble plus de 20 000 étudiants. Est-ce que c'est vraiment un échec? Est-ce que vous êtes un peu déçu de que Rennes 2 soit juste associé?
Pour moi, c'est très important d'être en mouvement. Il y a un poète qu'on aime beaucoup avec la présidente de l'université Rennes 2, Antonio Machado, qui a un très beau poème sur « Le chemin se construit en marchant ». Nous devons aussi construire notre propre chemin. Et là, dans ce contexte de fusion qui n'était pas possible, hein, nous nous sommes inspirés plutôt du modèle de Paris-Saclay. Vous savez, Paris-Saclay, c'était Paris-Sud qui s'est transformé en université de Paris-Saclay. Et Évry et Versailles sont universités associées. A priori, elles ne vont pas fusionner, mais elles vont être le plus intégrées possible. Un peu comme nous le faisons ensemble. Cette radio, cette maison des sciences de l'homme, c'est la culture, le service de santé commun, le service de sport, et bien toute cette dimension sur l'international. Et donc je pense que nous trouvons notre propre chemin. Pour nous, il nous fallait cette belle étape qui nous rend éligibles. Et moi, j'ai toute confiance dans les synergies, l'association, les mutualisations, et pour que l'on continue ensemble. Et c'est un projet qui vise à être inclusif, qui est vraiment au service de la communauté. Donc nous trouverons notre propre chemin. Et là, aujourd'hui, ce que je suis venu fêter, outre la nouvelle année avec tous vos auditeurs, c'est aussi cette fierté collective et cette nouvelle université de Rennes.
Après, si on se place un petit peu dans le point de vue de Rennes 2, est-ce que ça peut être préjudiciable pour la recherche, notamment dans les sciences humaines et sociales? On a vu aussi beaucoup de chercheurs dans les labos de Rennes 2 qui se plaignaient que l'université ne rejoigne pas. Est-ce qu'il y a un risque que beaucoup de financements du coup, ne viennent plus vers Rennes 2, mais soient concentrés vers l'université de Rennes? Est-ce qu'il peut y avoir un risque pour cette recherche
Alors pour nous, on a toujours joué la carte du collectif. Et dans les grandes transitions, parce que vous voyez qu'on ne va pas raisonner par établissement, on se dit, quand vous allumez les informations, vous entendez parler de crise géopolitique, de crise sanitaire et Covid, de transition numérique, de transition énergétique. Et pour nous, nous avons besoin des sciences humaines et sociales. Nous avons besoin aussi de l'apport pour les cultures. Moi, je pense que ce n'est pas simplement une question de langue. Hein. Ce n'est pas simplement apprendre le chinois ou le russe. C'est aussi apprendre. Et donc, nous aurons besoin, et nous avons besoin, de toutes ces compétences de l'université Rennes 2. Et c'est pour ça qu'on a fait ensemble une charte d'association et que ces grands principes ont été votés par l'université de Rennes 2. C'était un moment important pour nous, avec la présidente, qu'on se donne ce cap, et on parle de sciences ouvertes, on parle de tous ces services et de cette volonté d'avancer ensemble. Et cette charte d'association entre les deux universités, ce sera certainement un des premiers projets que nous voterons dans le cadre de ces conseils. Donc moi, j'ai confiance et je crois vraiment que les grands défis, y compris sur les transitions, sur le numérique, nous avons besoin des sciences humaines et sociales. Vous savez que nous avons déjà le droit économie et la gestion, mais nous avons besoin de la sociologie, de la géographie, de la psychologie, des arts. Donc j'ai confiance pour l'avenir et j'ai confiance pour notre site et notre association.
Dans les arguments avancés par les syndicats de Rennes 2 qui ont donc voté contre cette union, on retrouve le souhait de préserver le statut juridique et le nom de Rennes 2. Comment vous voyez ce changement d'identité, le fait que l'université Rennes 1 maintenant n'existera plus?
Alors l'enjeu pour nos auditeurs, c'est qu'à un moment, il y a eu des créations d'universités fédérales. Université européenne de Bretagne, Université Bretagne-Loire, qui abritaient chacune des universités. Et c'est ce modèle qui n'a pas été considéré comme éligible, parce qu'on trouvait que ça ne changeait pas. Donc nous, on nous a amené à nous fondre dans ce nouvel établissement. Donc c'est vrai que Rennes 1, en tant que tel, a disparu et qu'on en a profité pour changer la gouvernance, pour accueillir des représentants des grandes écoles, des organismes, et y compris dans notre commission recherche et notre commission formation, des représentants d'universités associées, avec une logique de réciprocité. Eh bien, Rennes, je crois que la question se... pourra se poser, mais je pense que là, on n'en est pas là. Là, on en est au moment de l'association. Voilà. On était dans ce moment où on va trouver ensemble ce chemin. Et puis, il y a une grande ouverture. C'est pour ça que je disais le chemin se construit en marchant. Voilà, j'ai pris l'exemple de Saclay pour avoir parlé avec la présidente. Hein. C'est le 15e établissement mondial. Je disais que Rennes est un petit Saclay parce qu'on a des marques fabuleuses, on a un potentiel fabuleux. Eh bien, peut-être que ça nous montre aussi un chemin. Mais ça, nous le ferons ensemble dans le cadre de la création de l'Université de Rennes, avec y compris l'ensemble des établissements qui la composent.
Et donc, on arrive à la fin de l'interview. Une dernière question maintenant. Que peut-on, vous et nous, souhaiter pour 2023?
Écoutez, une excellente année pour tous, une bonne santé, puis une université de l'innovation. C'est-à-dire que moi, je crois que nos étudiants, c'est nous qui allons être les ambassadeurs pour cette nouvelle société. Et pour moi, je souhaite vraiment des acteurs des transitions. Nous aurons réussi quand tous les étudiants, ils seront acteurs de cette transition écologique et environnementale, ils seront acteurs de ces évolutions numériques, acteurs de cette santé globale. Et voilà, donc pour moi, c'est une université sur laquelle on change le regard et des étudiants, des personnels qui sont acteurs des transitions pour le meilleur.
Merci David Alice d'être venu dans notre studio pour parler du projet de l'Université de Rennes. On suivra cela avec attention.
Merci à toi Valentin.